ça commence avec un grand trou, personne ne sait. On est le 22 mars. Yeah, 22. Le 22 mars 2019, il fait beau dehors, donc on est content, on sort de la place où on a bu notre café au soleil. Alors, ce n'est pas une blague, mais je reçois, parce que c'est quand même drôle dans les noms, je reçois Kelly et le groupe Kala. C'est pas commun quand même. Well, I'm gonna tell you. Well, I'm gonna tell. Thoroughly kill. Alors on garde la joie et la bonne humeur sur ces jours ensoleillés et ce début de printemps, même si on va parler de choses importantes et graves et sur des situations pas évidentes pour Kelly, donc on avait déjà un peu abordé le sujet, pour te défendre et que tu restes parmi nous sur le territoire français. Et on continuera avec le groupe Kala. Donc, je vais découvrir en direct ce que fait le groupe Kala, K-A-L-A. Et avec Mathis que je viens de rencontrer. Donc bonjour Mathis.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue donc à tous à Radio Canu. Et puis Mano, je connais ce qu'il joue du sitar. Et j'espère t'inviter un séjour avec le sitar en direct.
Avec plaisir.
Alors comme j'ai pas mes infos sous les yeux parce que j'ai oublié, je sais que Mathilde Guillot et Cyril Boccaros sont bientôt en concert au théâtre Sous le Caillou. C'est peut-être pas tout de suite, peut-être que vendredi prochain, je peux encore vous en parler. Et on va démarrer tout de suite l'antenne pour parler de choses sérieuses. Et tu es accompagné de Thierry qui était déjà venu parler des problématiques qui te concernent toi. Et puis malheureusement, beaucoup d'autres personnes aussi. Et il faut beaucoup d'énergie pour défendre des droits et ne serait-ce que le droit à la solidarité.
Thank you.
Donc c'était un extrait. Non, finalement, on l'a passé en entier.
En entier, ouais, ouais.
Pratiquement.
Ouais,
pratiquement.
Donc c'est le groupe Kala, ici présent dans l'émission Patchworld en direct.
On est très heureux d'être là.
Merci beaucoup à vous. Alors dites-moi sur ce premier morceau là, il s'appelle Bird. Bird.
Exactement.
Ah, au singulier.
Non, Birds.
J'avais demandé, vous avez vu le film Bird? Birdie aussi. Il y en a deux, il y en a un, c'est sur un saxophoniste et l'autre c'est l'histoire d'un type qui se prend pour un oiseau sur une super musique de BO de Peter Gabriel.
D'accord.
Non, pas du tout. Ah, nous, c'est les canaris de notre maman.
Mais ils chantaient bien. Hein. Vous mixez avec Live, hein, c'est ça?
Okay. Exactement, ouais. Avec Live et Logic aussi.
Donc on vous réécoute tout à l'heure dans un petit moment. On va laisser la parole pour l'instant à Thierry et Kelly pour expliquer un peu la situation dont on avait déjà un peu parlé avec Babs et Thierry il y a quelques temps. Donc où ça en est pour l'instant? Il y a encore une décision du tribunal pour... qui est-ce qui veut prendre la parole pour expliquer un petit peu les problématiques que rencontre Kelly?
Tu commences.
Oui, en fait, bonjour à tout le monde. Et du coup, je suis passé au tribunal tout dernièrement, en fait, par rapport à ma situation, depuis 2014, en fait, je ne fais que passer au tribunal, mais sans succès, juste en fait une fois, où j'ai gagné au tribunal administratif, en fait, qui a reconnu ma minorité dès mon arrivée, en fait, en France. Et entre autres, il y a le Conseil d'État, en fait, qui a fait un autre jugement, donc qui a mis, en fait, le jugement en cause, en fait, que le tribunal correctionnel est au-dessus de tous les tribunaux. Et du coup, j'ai reçu, entre autres, une obligation de quitter le territoire. Et après, il y a eu une audience le 12 février, et au cours de laquelle, en fait, il y a eu beaucoup de mobilisation. Il y avait la France 3, en fait, qui était venue pour une interview et tout. Et après, j'ai reçu, en fait, le résultat du jugement qui me donne aussi un négatif, quoi, qui a été refusé. Et du coup, voilà, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on ne sait pas quoi faire, quoi.
Pourtant, tu nous expliquais tout à l'heure avec Thierry que tu avais passé ton bac, qu'ils avaient les justificatifs, que ça ne leur suffisait pas.
Oui. Et en fait, j'ai passé mon bac et dans mes dossiers, ils avaient donné tout à mon avocat, les relevés de notes et mon diplôme de CAP comme le bac. Et du coup, dans la décision du tribunal, en fait, ils mettent en cause le fait qu'il n'y a pas de relevé de notes du bac. Et il y a juste un diplôme, en fait. Ils disent que j'ai jamais fait de stage dans mon lycée. Et en fait, je rappelle que dans mon lycée, on ne fait jamais de stage parce qu'on travaille, c'est une école de production, on travaille, on apprend en travaillant. Et c'est les gens qui viennent faire du stage dans notre école. Et il y a tout un tas de choses comme ça, en fait, qui est dans la décision, en fait, qui est complètement absurde, quoi.
Alors, c'était où? Tu as étudié où?
Et c'est à l'école de production Gorge de Loup.
Qu'est-ce qu'on y fait? Je ne connais pas du tout.
On fait de la mécanique industrielle. C'est tourneur fraiseur. C'est ça, le métier, quoi.
Et tu as une promesse de travail bientôt, en plus, tu vois?
Oui, j'ai passé, en fait, le stage il y a un mois. Un mois, et du coup j'ai fait 4 jours de stage, et j'ai eu un employeur, en fait, qui m'a fait tout de suite une promesse d'embauche parce qu'il a beaucoup apprécié la façon dont je travaille et les compétences que j'ai, en fait. Du coup, ils en ont besoin de quelqu'un comme moi, et au cours de laquelle ils ont accepté de me faire une promesse d'embauche, et je dois repasser le début de mois prochain, en fait, pour un autre stage.
Donc toujours dans le métier où tu as été formé comme tourneur-fraiseur?
Oui.
Thierry, tu le soutiens depuis au début, Kelly. Tu étais venu déjà en parler là il y a quelques temps avec Babs, qui m'avait mis en contact avec toi. Toi, tu es éducateur, c'est ça?
Oui, éducateur, militant sur Lyon, enfin plusieurs casquettes.
Et du coup, tu es très investi forcément, ça demande beaucoup d'énergie, du temps pour...
Ça demande beaucoup d'énergie sur la situation de Kelley, et puis c'est Kelley est pas le seul, malheureusement, dans ce cas-là sur Lyon. Enfin, c'est, aujourd'hui, c'est un peu l'icône, on va dire, sur Lyon, de tous ces jeunes qui sont traqués, qui sont en permanence refusés sur des titres de séjour, alors qu'ils font tout bien. Enfin, l'exemple de Kelley, il est parfait. C'est un CAP en main, un bac, une promesse d'embauche, une intégration culturelle aussi, puisque Kelley, il fait partie d'une chorale, il fait partie d'un groupe de théâtre, d'ateliers d'écriture. Enfin, on peut pas faire mieux comme profil de personnes qui prétendent devenir français, ou en tout cas au moins avoir un titre de séjour. Et malheureusement, on a une politique aujourd'hui à Lyon, mais partout en France, qui refuse de donner des droits à ces jeunes-là. Et malgré, on fait une révision juridique avec Kelley, hein, sur 5 ans, on a fait cour correctionnelle, tribunal administratif, conseil d'État, et maintenant on va passer en cassation dans quelques mois, quelques années, pour essayer de casser ces décisions qui... On le rappelle, hein, elles ont été obtenues lorsqu'il était très jeune, parce que tu avais 14 ans à l'époque, et où en gros on lui a fait dire dans les locaux de police qu'il mentait sur son âge à l'époque. Donc on imagine bien comment ça a été obtenu, ces témoignages. Et c'est cette décision du correctionnel de 2014 qui accuse Kelley d'avoir menti sur son âge. Aujourd'hui, la seule manière de l'invalider, c'est de passer en cour de cassation, ce qui est la plus haute chambre juridique au niveau du droit français. Donc on se rend bien compte du parcours du combattant qu'un jeune comme Kelley doit mener pour faire valoir ses droits et espérer être accepté dans un pays comme la France, qui, on le rappelle, est le pays des droits humains. Enfin, voilà, on voit bien qu'il y a un acharnement juridique, un acharnement politique, qui sont sans fondement réel, puisqu'on ne peut pas dire que Kelley c'est un casseur, on ne peut pas dire que c'est un délinquant, qu'il fait rien de ses journées, il n'arrête pas de bosser, il essaye de s'intégrer au maximum dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, et malgré tout, on a encore des préfets, des juges, qui veulent tout faire sauf l'accepter en France, et voire même le renvoyer dans son pays où il n'y a pas d'avenir. Enfin, il a plus de lien social dans son pays, il a pas de formation, il a pas de quoi ne serait-ce que se loger aujourd'hui en Guinée. Donc renvoyer ces jeunes dans leur pays, c'est les condamner à la misère, et alors qu'en France, leur avenir est tout tracé. Enfin, si on donne des diplômes à des jeunes, c'est pas pour ensuite les renvoyer chez eux. Il y a une illogique dans ces situations, et on le voit bien, c'est tout simplement un point de vue politique qui est pas le même que le nôtre. Enfin, voilà, on aimerait que ces jeunes, nous, ils restent, pas simplement parce qu'ils sont sympathiques, et c'est aussi parce qu'ils le méritent. Voilà, il y a une question de mérite. Quand on a son bac, quand on a des promesses d'embauche, c'est qu'on est compétent sur le marché du travail, et donc on mérite de pouvoir rester en France pour y construire sa vie. Kelley, voilà, ça fait 5 ans qu'il a ses amis, qu'il a sa nouvelle famille en France, qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre simplement et heureux, et malgré tout, on a un acharnement permanent. Alors la mobilisation, elle est forte, juste je touche un mot là-dessus, parce qu'on a eu quand même depuis ne serait-ce qu'un an, on a une page Facebook, Soutenez Kelley, vous pouvez aller dessus et liker J'aime pour soutenir la cause. On a une pétition en ligne qui a plus de 4000 signataires. On a le monde culturel lyonnais et artistique qui se mobilise, que plus de 50 artistes ont signé une lettre à destination du préfet. Différents temps de rassemblement pendant les audiences où on est plus de 100 à chaque fois à soutenir Kelley. On a fait une fête de soutien il y a 2 mois, on était plus de 300. Là, on appelle le 10 avril à se réunir à 17h30 devant la préfecture pour demander un entretien avec monsieur le préfet, pour discuter de ces situations avec lui et lui demander d'être raisonnable et de laisser la chance à Kelley de pouvoir travailler et vivre en France avec un titre de séjour. On ne demande même pas la nationalité dans un premier temps, on demande un titre de séjour au moins pour qu'il puisse travailler et être serein dans sa vie quotidienne. Parce que c'est loin d'être facile quand on est traqué, qu'on a une OQTF, qu'on doit passer tous les 6 mois au tribunal, d'être serein dans sa tête déjà.
Alors tout le monde ne sait pas ce que veut dire OQTF.
Obligation de quitter le territoire français. Voilà.
Donc, est-ce qu'on peut parler un peu du contexte qui t'a amené à Lyon, en France ? Oui. Et pourquoi précisément Lyon ? Est-ce que tu te souviens comment c'est passé ? Pourquoi tu es parti ? Comment tu es venu ? Comment ça s'est passé, les premières étapes en France ? Et comment tu es arrivé sur Lyon ? Tu peux nous en parler un petit peu, ou c'est oui. compliqué ?
En fait, c'est un peu compliqué, mais je peux en parler un peu. En fait, quand j'étais en Guinée, et je vivais avec mon père parce que mes parents sont divorcés, et j'étais l'aîné de la famille, en fait. Et mon père a pu m'amener avec lui, et ma maman, en fait, elle est restée au village. Et on est venu à Conakry où je vivais avec mon père. J'ai été scolarisé à l'âge de 5 ans, j'ai été scolarisé à l'école. Jusqu'en 2012,
Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passait, les conditions de vie? Qu'est-ce qui te... C'est très c'est difficile, c'est
ouais,
pauvre.
C'était presque difficile parce que moi je partais à l'école et mon père il partait au marché en fait pour travailler. Et après l'école, je devais venir en fait l'aider à travailler un peu parce qu'en fait il faisait du commerce, il faisait plein de choses, hein. Commerce et plein de choses. Et du coup, en fait, on était là où on était à Conakry, on était dans une location. Et mon père, à un moment donné, il n'arrivait plus à payer en fait les loyers. Et il avait au moins beaucoup de dettes en fait. Il a eu beaucoup de dettes pour payer ses loyers. Il n'arrivait plus à payer les loyers. Et du coup, en fait, le propriétaire de la maison nous a mis dehors. Il a appelé les huissiers, en fait. Ils sont venus, ils ont bloqué toutes nos affaires, en fait. Et on a pu récupérer quelques-uns. Ils nous ont mis dehors parce que mon père ne pouvait pas payer. Et du coup, en fait, mon père, il m'a dit, la façon dont il voyait la situation, c'était très grave, en fait. Ça ne peut pas continuer
de
comme moi.
De prendre en charge.
Me prendre en charge et en plus, dormir dehors. C'était trop compliqué. Et on est resté comme ça, en fait, dehors. On n'avait pas d'autre logement. On dormait dans le marché. Et à un moment donné, mon père, en fait, il m'a dit qu'il ne peut pas accepter cette condition-là. Il faut qu'il part en aventure pour essayer de trouver une solution. Et du coup, en fait, quand il m'avait en parlé, moi, j'étais content. J'ai dit, en fait, qu'on allait partir ensemble. Il m'a dit, non, en fait, je vais pour 2 ou 3 semaines, en fait. Il m'a dit comme ça. Je vais revenir. Et moi, en fait, j'étais pas trop content. Quoi. Je voulais pas qu'il aille seul et me laisser. Quoi. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et il est parti, en fait, en RDC. Il a voyagé, il est parti en RDC. Et moi, j'attendais, en fait, qu'il y ait 2 semaines qu'il allait venir. Et je n'ai plus eu ses nouvelles. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ses nouvelles. Et en fait, je suis resté dans cette condition et du coup, j'ai abandonné l'école. Je ne pouvais plus aller à l'école parce que je n'avais rien à manger. Et j'ai commencé, dans cette condition, en fait, j'ai commencé à travailler dans le marché, à transporter des bagages pour les gens et aussi à faire du cirage, cirer des saucisses et tout. Et c'est dans cette condition, en fait, j'ai mené ma vie, quoi. J'ai essayé de survivre et aussi l'argent que j'ai gagné, c'était pas assez en fait pour que je me nourris en fait. Parce que parfois, quand je sors du marché, quand je pars pour cirer des saucisses ou transporter, parfois je gagne 10 000 francs guinéens, en fait, qui correspond à peu près à 1 euro ici, et par jour. Et le plat du riz, c'est 8 000, 5 000, ça peut pas, je pouvais pas manger à ma faim, quoi. Et je suis resté dans cette condition. Un jour, en fait, il y a un monsieur en fait qui est venu dans sa voiture parce qu'il est descendu de sa voiture, j'ai ciré ses chaussures et c'est comme ça que j'ai fait connaissance à ce monsieur en fait qui m'a dit, il m'a dit mais petit pourquoi tu vas pas à l'école et tous tes amis vont à l'école. Du coup je lui ai raconté en fait l'histoire en disant que je pouvais pas aller parce que mon père n'est pas là, il y a personne qui s'occupe de moi. Et du coup, il a eu pitié de moi. En fait, quand j'ai fini de travailler, en fait, j'ai ciré ses chaussures. Je le fais à 1000 francs. Et en fait, il m'a donné 5000. Et c'est comme ça qu'on a tissé des relations et tout. Et un jour, en fait, il est venu me voir. En fait, il m'a dit qu'il voulait vraiment m'aider, quoi. Et c'est dans cette condition, en fait, je partais chez lui pour laver ses habits, pour l'aider à travailler, pour faire plein de choses de la maison. Il me payait pas, mais il me donnait à manger. Et du coup, il a décidé de m'aider en fait en me disant qu'il va me faire partir d'ici parce que je n'ai aucun avenir dans ce pays. Et en fait, dans cette condition, je me suis retrouvé à Lyon ici. Je ne savais même pas, j'ai jamais imaginé que je pouvais venir en France, jamais, parce qu'il n'y a personne qui peut payer en fait ça pour moi. Même mon père n'avait pas ça. Et c'est dans cette condition, quand on est arrivé en fait ensemble à Lyon ici, et du coup en fait il m'a laissé à la gare routière en fait en me disant que si j'avais faim, j'ai dit oui. Il est allé acheter à manger et un sandwich, il est venu, il m'a remis et il m'a dit qu'il va venir tout de suite. Et en fait je suis resté dans la station du bus, je l'ai attendu, il n'est plus revenu. Je suis resté là-bas, ils ont passé la nuit là-bas. Et c'est comme ça, en fait, j'ai traîné, en fait, quelques jours dehors. Et un jour, en fait, j'ai demandé à une dame, parce que je ne connaissais personne, je ne savais même pas là où aller, et qui m'avait indiqué, en fait, le forum refusé. Et je me suis rendu, en fait, au forum refusé, où j'ai demandé, en fait, j'ai raconté mon histoire et tout. Et en fait, ils m'ont demandé mes pièces d'identité. J'avais mon extrait d'acte de naissance, parce qu'en venant, je suis venu avec ça. Et du coup, avec ça, ils m'ont ramené tout de suite à la Miomi. C'est là où j'ai été pris en charge par le conseil général. J'ai été pris en charge, j'ai été admis à l'IDEF, où j'ai passé 6 mois et tout se passait très bien. Après 6 mois, en fait, j'ai été convoqué à la police des airs et des frontières pour des tests sociaux et pour les visas bio. Et c'est dans ces enquêtes-là, en fait, j'ai été à la police. Ils m'ont mis beaucoup de pression, en fait, en disant que mes actes étaient faux, que je suis venu avec un faux papier, un passeport où j'ai à peu près 40 ans sur le passeport. Et après tout ça, il y a eu 2 jours, en fait, j'ai passé la nuit en garde à vue, j'ai passé 2 jours là-bas. Et après ces 2 jours-là, je suis passé en comparution immédiate. Et après là-bas, j'ai été condamné en 2 mois de prison ferme, 3 mois avec sursis et 60 000 euros d'amende pour les 6 mois que j'ai passé à l'IDEF. Et après, à ma sortie de prison en 2000, c'était en 2015, décembre 2014. Et du coup, non, décembre 2014. Et après, ils m'ont tout de suite pris là-bas, ils m'ont ramené au centre de rétention, où j'ai fait 3 jours. Mais grâce à la mobilisation de mes anciens éducateurs et aussi de RSF et beaucoup d'autres personnes, en fait, suite à cela, ils m'ont libéré, en fait, du centre de détention. Et depuis lors, je n'ai pas été pris en charge. J'ai passé toute ma formation comme ça, sans aucune ressource, sans rien, quoi, jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu as un site où on peut signer une pétition.
Oui.
Il y a tout un groupe, une association, un collectif qui s'est réuni pour te soutenir. On peut en... nommer le lien, le site.
Sur Facebook, vous allez sur Soutenez Kélé et vous aurez tous les liens et la pétition sur change.org qui est en lien sur la page Facebook. Et on tient au jus sur les différents temps de mobilisation, les différents événements, les dates clés. Enfin voilà. Donc, prochaine étape, 10 avril, pour mettre la pression au préfet pour justement qu'ils comprennent tout ce que vient de nous dire Kélé, hein, que cette situation, c'est loin. D'être un voyage pour venir profiter de la France, hein, c'est vraiment une question de survie et que si on continue aujourd'hui l'acharnement sur Kélé, c'est pas légitime au vu de son parcours, son histoire et de toute la motivation qu'il met à s'en sortir. C'est ça, loin.
Oui, et la semaine dernière, on avait entendu la chorale dans laquelle tu participais.
Oui.
Tu as investi dans plusieurs associations aussi, en plus de ta formation pour la recherche de ton travail. Donc je te souhaite, donc on croise les doigts pour toi, pour que cette promesse d'embauche puisse se réaliser très rapidement et puis pouvoir justifier, prouver les bonnes volontés des personnes, d'où qu'elles viennent, en fait.
Tout à fait,
merci.
Ça, cette situation, elle se propage de partout, et des gens plein de formations et qui, de plus en plus aujourd'hui, ont du mal à trouver un métier. Donc Soutenez Kélé, K-E-L-E. Thierry, on peut rajouter un peu pour... donc à travers Kélé, on fait un exemple finalement de beaucoup gens. On parlait tout à l'heure du délit de solidarité. On peut un peu développer pour les gens qui ne comprennent pas trop ces situations, qui ne sont pas dans ces situations où on se retrouve dans des failles comme ça, abandonnées à soi-même, et qu'il y ait des personnes qui viennent généreusement, par humanité, soutenir des personnes qu'ils ne connaissent pas, mais parce que c'est humain de vouloir aider son prochain, et c'est un délit de solidarité. Tu peux expliquer un peu?
Aujourd'hui, ce qu'on explique par le délit de solidarité, c'est le fait d'aider des personnes en situation irrégulière, tout simplement, et on se bagarre contre ça depuis des années, puisque, comme tu le dis, hein, le fait d'aider quelqu'un qui est en galère... C'est inconditionnel, on s'en fout qu'il soit français ou pas français, enfin, du moment que quelqu'un est en difficulté, on est là pour l'aider, normalement, surtout dans un pays français, dans un pays où on parle de fraternité, Donc aujourd'hui, le délit de solidarité, c'est d'avoir des personnes qui sont condamnées parce qu'elles ont hébergé une personne sans papier, parce qu'elles ont essayé de l'aider à ouvrir des droits, à pouvoir se nourrir, etc. Et c'est pas uniquement parce qu'on les aurait aidés à traverser la frontière. Enfin, on a plein de situations actuellement
en France. Oui, ça peut être simplement, voilà. On voit quelqu'un qui meurt de faim, qui meurt de froid, et donc...
On veut l'aider, et derrière, la police va mettre en garde à vue les dents en disant, voilà, il a eu un délit de solidarité. Alors, il n'y a rien de légal dans tout ça, c'est vraiment une tension politique, c'est vraiment un état d'esprit, un climat actuel dans notre pays où on essaye de mettre la pression sur les associatifs, sur les collectifs de citoyens qui ont envie de se battre pour que il y ait un accueil digne, on va dire, des personnes qui sont de manière irrégulière en France. Et on lâchera pas, ça c'est sûr. Et les victoires aujourd'hui, on les a au niveau des tribunaux, puisqu'on se rend compte de plus en plus que des juges, pas tous, hein, mais certains soutiennent en disant que non, on peut aider. Enfin, il faut aider les gens qui sont en difficulté et que c'est pas un délit. Au contraire, c'est le délit, ce serait plutôt de les laisser en galère, quoi. Donc voilà, donc on reste mobilisé sur des situations comme celle de Kélé et parce qu'elles font exemple et qu'on espère que les gens comprendront que c'est pas du tourisme, c'est des gens qui essayent vraiment de s'en sortir et qui viennent chez nous pour survivre, tout simplement.
Merci Thierry, on va se reposer un peu avec de la musique pour, et en hommage donc avec une pensée pour toutes ces personnes qui sont en galère.
The swordsman. the people in the street. I look at history playing front of me. I see merry questions. What class, what culture, what education?
Alors c'est le groupe Kala en direct avec un grand K.
Exactement, bonjour.
Bonjour, rebonjour Mathis, ouais. Ça va?
Oui, ça va, super. Cool.
Donc cette fois c'est à vous la parole. Du coup, vous avez sorti un EP.
Exactement, notre
donc,
tout premier.
En virtuel, comme on dit, en numérique, pas
c'est
sur
ça,
CD.
C'est ça, exactement.
Premier projet.
Ouais, premier, tout premier là, c'est un sacré truc pour nous.
Cinq titres. Comment s'appelle celui qu'on vient d'entendre?
La musique Mechanical.
Alors dans celui-ci, justement, je fais une petite parenthèse, je dis, ah, il y a des voix de femmes.
Exactement, ouais, c'est des petites cousines à nous, 9 et 13 ans. Et,
bon, et moi, coucou, non, une
bon, maintenant, elles ont grandi.
Voilà, Mélissa et Lila.
Mélissa et Lila, gros édicace.
Mélissa et Lila, vous avez participé au projet, donc normalement, vous êtes que deux. C'est pour ça que quand j'ai entendu des voix de femmes, je fais bon, même.
Exactement, mais derrière cette EP, ça, c'est la. Je dirais la leçon, il y a un nombre de personnes incroyables qui ont travaillé avec nous, quoi. Que ce soit pour notre ami Ferial Art, qui a fait la pochette, Meldwin.
Ouais, ou la pochette, alors c'est pareil, juste en virtuel, oui, c'est oui, sur c'est un site sur
ou... Oui, bah, ça a été. On a débattu, hein.
Ouais.
Mais
j'ai
notre
l'habitude de ne pas avoir de CD.
Ouais. On a débattu, notre génération, nous, on a grandi avec. Imule à l'époque, aujourd'hui UTorrent, BitTorrent. Le CD a plus trop de valeur pour nous, en tout cas, c'était vraiment ça.
De nos jours, c'est vrai qu'en physique, on est plus du genre à acheter le vinyle pour avoir le bel objet.
Voilà,
et
c'est
le
ça,
CD,
pour
beaucoup
l'objet.
Moins, on est beaucoup plus l'avoir dans notre portable. On a la bibliothèque de 30 gigas, puis là, on est bien, quoi.
C'est ça, mais ça n'a pas été simple parce que beaucoup de gens autour de nous étaient là, le CD après
puis
les concerts.
Nos parents, notamment, ils disaient
ouais,
le CD,
parents,
c'est important.
C'est ça. C'est vrai que c'est un objet, quoi. T'officialises vraiment quelque chose. Mais nous, on est sur Spotify, ça officialise autre chose, quoi.
On est sur toutes les plateformes de streaming et on s'est dit, c'est aussi important, remarque de nos jours, dans notre consommation de la musique.
Donc Google, si on tape Kala, on tombe sur d'autres choses avec Kala. Ça vient d'où, ce nom?
Kala, alors, c'est quand je suis parti, du coup, nous, on vient d'Ardèche, et je suis arrivé à Lyon, et nous, on a de la famille qui travaille en Inde. En fait, c'est l'Hindi, et ça veut dire noir. Parce que j'adore le noir.
Voilà. Et les crayons.
Et les crayons, exactement.
Alors, vous n'avez pas l'image, donc je peux faire. Parce que c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un peu ta marque
de fabrique. Oui,
fabrique,
ouais.
Ouais, depuis.
Que je te croise avec un sitar, normalement. Est-ce que tu as des morceaux avec le sitar?
On en a un.
Dans le EP.
On en a un. On en a un avec des prises de son à New Delhi aussi.
Des
on voulait vraiment faire un clin d'œil à cette partie de notre vie, quoi.
On vous voit de toute façon dans les clips ou sur les photos.
Exactement.
Pour ceux qui voudraient rencontrer Mathis et Mano. Alors Mano, son particularité, c'est qu'il a la trousse dans les cheveux.
Il a des baguettes et des crayons, c'est ça.
Et moi qui cherchais un crayon tout à l'heure, j'y ai pas pensé.
Ah, mais je l'aurais pas donné. Hein.
Bah oui, on va pas casser la coiffure. Mais c'est très original et du coup, ça sort vraiment de l'ordinaire et ça se fait tout de suite. Ça fait du bien d'avoir un petit peu d'originalité.
Mais complètement, et c'est marrant.
C'est une marque de fabrique. Vraiment,
mais c'est ça, c'était vraiment pour affirmer quelque chose, quoi. Bon, être artiste tout le temps, quoi. Être soi-même tout le temps.
C'est
en
du col que tu as sous les yeux.
Du col, ouais, exactement.
Ouais, ça, c'est pareil, c'est plutôt rare chez les hommes, des maquillages, aussi dans la vie de tous les jours, d'avoir un peu comme un bijou.
Exactement. J'en mets tous les jours. Et ce qui est drôle, c'est que moi, ça fait 3 ans que j'habite maintenant sur Guillotière, le quartier de la Guillotière. Et là-bas, non, c'est les hommes, ils en ont. Hein. Venez voir, hein, je vous jure, c'est normal là-bas. Ça dépend où on est.
Ça dépend où on est, exactement.
Et à Guillotière, ils ont le col aussi.
Mathis, tu m'as dit que tu étais en formation au CRAP.
C'est ça. En
donc,
musique
avec David, on lui fait un petit coucou.
Allez, coucou à David. David Défigy.
En musique électronique, oui, absolument. En fait, à la base, moi, je suis dans une formation plutôt rock, je suis batteur. Et en écoutant, hein, parce que Mano, quand il a intégré le conservatoire il y a 3-4 ans,
5 ans même,
il a commencé à aborder tout ce qui est le domaine de la production musicale, et moi ça m'a énormément plu, puis même on est vachement intéressé par tout ce qui est la musique actuelle, mais véritablement actuelle, ce qui se fait de nos jours, ce qui sort, et évidemment ça passe souvent par la production musicale, et donc évidemment je me suis mis du coup depuis cette année vraiment sérieusement avec David Ockrap, et franchement c'est vraiment une approche complète de la musique, je trouve. T'as autant de la création, de l'arrangement et du mixage, on touche aussi au mixage, et ça nous permet aussi de parce que finalement sur Ableton Live ou autre, il y a tous les genres de musique. Il y a des gens qui peuvent faire du jazz sur live, qui peuvent faire du rock, qui peuvent faire plutôt du hip-hop, de l'électronique, parce qu'après ça reste évidemment un outil d'instrument électronique.
Donc là, il n'y a pas de batterie dedans. Les batteries électroniques, c'est toi qui les as programmées ? Comment ça se passe ?
Alors, il les a jouées.
Oui.
Il les a jouées avec son pad.
Ce qu'on entend dans l'EP, en fait, on a récupéré des sons lofi, des sons pour pouvoir avoir véritablement ce qu'on voulait, notre empreinte. Et pour l'enregistrement, je les ai joués tout de même. J'ai un pad de séquence, voilà, le Rolo SPD6. Et c'est pour garder mon groove sur certaines musiques. Je le jouais véritablement en live, même si c'était électronique. C'est pas l'ordinateur qui le jouait.
On les a pensés électroniquement, mais je voulais le jeu de mon frère.
Et du coup, je l'ai joué en live.
Très important, quoi.
Voilà.
Comment vous êtes rencontrés maintenant ? Vous êtes en colocation ? Comment ça s'est passé, la rencontre ? Alors, et puis, à un moment, vous avez décidé de choisir, de lâcher la batterie. Wow.
C'est très simple.
Bah, on est frères.
On est frères.
D'accord, bah.
Voilà. C'était le twist.
J'ai pas eu l'information.
Ouais, on est frères.
On sait tout.
Ouais, voilà. Et depuis.
Il y a combien de différences ? Vous ne ressemblez pas trop
non,
du
c'est
premier
vrai.
Coup, en fait.
C'est vrai. On a 4 ans de différence.
4
ans scolaire, mais
3
ans et quelques, quoi. Et en fait, bah, on se.
Ouais, on joue depuis longtemps ensemble.
Depuis très longtemps, on a eu pléthore de projets.
On a fait du rock.
Voilà, dans nos années teenage. Tout ça.
Au lycée notamment, on a joué au.
Voilà, on a fait de la world music pendant un petit moment. Et en fait, la musique électronique, c'est arrivé chez nous parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait de la musique aussi acoustique pour ne pas vieillir quelque part. On avait un peu envie d'être en recul par rapport à cette frénésie qu'on entendait partout. Et moi, personnellement, quand j'ai amené de l'électronique dans Kala, dans notre projet, c'était aussi pour me reconnecter avec. Mais de redevenir acteur, en fait, et ne plus avoir peur d'utiliser des nouveaux médiums, en fait, parce qu'on fait de la musique avec tout, en fait. Ça reste des sons, quoi.
Ça reste du son, ouais. C'est du son avant tout, la musique.
Ouais, c'est ça. Hein. Donc là, on l'a programmé, quoi.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on peut écouter un peu vos influences ? Qu'est-ce que vous aimez écouter ?
Ouais, alors, carrément, on en a ramené un petit peu.
On a plusieurs, là.
Sur ce premier EP, on était vachement influencés par ceux qui connaissent, évidemment, Atom for Peace.
Qui est un projet.
C'est un side project de Tom York,
de Radiohead.
Et de Flea, des Red Hot Chili Peppers. Donc, je vous la mets. Donc, c'est Before Your Very Eyes.
Donc.
What's
Ah, c'est très chouette, mais comme on a peu de temps, on va. J'allais faire un fondu enchaîné, tu m'as prise de court, t'as fait qu'on coupait net.
Pardon.
C'est Mano qui a les manettes, en fait, du coup, j'ai fait mixer un peu. C'est Mano qui a les manettes.
On s'arrête jamais. Hein.
On s'arrête jamais. C'est compliqué aujourd'hui.
Kala, moi, ça nous va. Hein.
Ouais. Kala, Kelly, les Mano et manettes.
Voilà.
C'est
exactement ça.
Donc, on racontait plein de choses en même temps, c'est passionnant. Donc, tu parlais du hindi, de l'espéranto, de.
Oui, exactement. Exactement, parce que on a amené avec la scène locale, émergente, à beaucoup parler de pourquoi on fait certaines choses, et notamment pourquoi on chante en anglais plutôt qu'en français. Mmh. Alors, il faut savoir que ça n'a pas toujours été ainsi. On a chanté en français, en anglais, mélangé même les deux. Moi, j'adore la scène québécoise à ce niveau-là, ce délire-là. Et en fait, ce qui s'est déjà professionnellement être précis sur un projet, c'était important. Quand tu vas à démarche des organisations, des structures, ils veulent un truc, ils veulent pas un truc flou. Hein, ils veulent donc déjà ça a bien motivé. Et surtout, voilà, nous on aime voyager et je faisais le parler espéranto parce que pour moi, l'anglais, ça m'a toujours ouvert des portes vers d'autres cultures, vers des gens. Et
l'échange en fait, plus simplement.
Exactement.
L'échange des personnes qui sont d'un pays anglophone à première vue, mais l'anglais a permis justement ce lien.
Cet échange.
Quoi.
Et des gens qu'on côtoie encore beaucoup, des artistes italiens qu'on a rencontrés à Hampi en Inde, des trucs incroyables. Et du coup, avec notre anglais un peu indien, on trace notre route quoi.
Puis même ce que je disais, c'est qu'on a été vachement plus influencé par la musique anglo-saxonne,
carrément.
La musique française. Bon, évidemment, on a vachement écouté, notamment grâce à nos parents, du Serge Gainsbourg, ce genre de grands noms-là. Mm-hmm. Mais par contre, pour tout ce qui est, on a été beaucoup plus influencé par le rock.
Puis on était biberonné avec du Bowie.
Évidemment. Ouais.
Des trucs incontournables, quoi. Les Stones, Iggy Pop, enfin tout ça, quoi. Ça a de la gueule.
Ah, je sais, je savais pas que Mathis était ton frère, mais je sais que tu as ta famille aussi au Portugal. Vous avez votre famille au Portugal.
Oui, une partie est encore là-bas, en effet. Et on a
vous
encore
êtes
une.
Né en France ou au Portugal?
On est né en France.
On est né en France.
Et est-ce que vous avez appris du coup le portugais ou vous l'avez laissé un peu de côté ou
Alors ça, c'est un sujet sensible, ça. Voilà. Notre mère, elle est française.
Notre mère est française, notre père est portugais.
Voilà.
Du coup. Et Il a essayé un peu, voilà. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir.
Ça fâche parce que ça vous a saoulé de l'apprendre, parce que ça l'a vexé.
Non, ça fâche parce qu'on a des grands-parents qui parlent portugais, on a de la famille. Mm-hmm.
Ça fâche. On a dit ça fâche, c'est plus.
Oui, c'est l'ironie, mais c'est vrai que c'est un pan de notre culture.
C'est juste qu'on avait demandé à notre père pourquoi il ne nous avait pas appris le portugais, et en fait, il nous avait dit clairement, comme on comprenait déjà le français, il n'avait pas persévéré en soi. Mais bon. C'est pas très grave, on s'en sort.
Je veux dire, vous n'avez pas la curiosité. L'anglais, vous l'avez appris plus tard, pareil, j'imagine.
Oui,
pourquoi pas
exact.
Le portugais,
c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, hein, quand même. J'y pense sérieusement. Ouais, complètement. Parce que dans les plans de guitare, ceux qui ont vu notre musique d'avant, il y avait beaucoup de références au fado, à des choses que moi j'écoute beaucoup. Mais pas encore. Mais rien que pour notre famille, moi j'aimerais bien, quoi.
Pourquoi pas?
Sincèrement, c'est une belle langue, quand même.
Et vous avez essayé de découvrir des groupes pop, électro, portugais? Vous savez si ça existe ou vous n'avez pas eu la plus de curiosité que ça? Vous êtes resté sur l'influence anglaise?
Alors, à l'époque, nous, on avait découvert...
Peut-être qu'ils chantent aussi en anglais, du coup.
Et voilà.
Oui, c'est vrai.